Donc ce soir, on continue notre étude sur la vie de Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 8. Hein, Gédéon, ce fils de Joas, tribu de Manassé, celui qui se considérait comme peut-être incompétent, on peut le voir peut-être comme improbable, comme juge que l'Éternel a choisi pour sauver le peuple d'Israël. Mais on sait, comme on l'a vu, que lorsque le Seigneur il a appelé à conduire Israël contre les Madianites, Gédéon était encore un jeune homme avec des doutes, des craintes. Et lorsqu'il a finalement répondu à l'appel de Dieu, il a obéi et il a pris ses responsabilités en main. Et on a vu qu'avec 300 hommes, il a, avec l'aide de l'Éternel, affronté une armée immense de 135 000 soldats. Et par la puissance de Dieu, qui agit de manière extraordinaire, eh bien, c'est une victoire remarquable qui a été accordée à Gédéon. Les Madianites avaient pris la fuite et ont subi de lourdes pertes. Dans ce chapitre 8 que l'on va voir, on apprend justement que de ceux qui étaient restés, des survivants de l'armée de Madian, il en restait à peu près 15 000, il me semble, de soldats qui avaient survécu. Et au chapitre 8 qu'on va étudier ce soir, eh bien, on va voir ce qui s'est passé juste après cette grande bataille, cette grande défaite de Madian et cette grande victoire de Gédéon. Alors, on va lire déjà à partir du verset 1er et on lira au moins jusqu'au verset 21 ce soir. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth: donnez, je vous prie, quelque pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébac et de Tsalmunna, roi de Madian. Les chefs de Succoth répondirent: la main de Zébac et de Tsalmunna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit: eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébac et Salmunna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Penuel et il fit aux gens de Penuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Succoth, et il dit aussi aux gens de Penuel: quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébac et Salmunna étaient à Carcor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient de Nobak et de Jobéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébac et Tsalmunna prirent la fuite, Gédéon les poursuivit, il s'empara des deux rois de Madian, Zébac et Tsalmunna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Succoth un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Succoth, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Succoth et dit voici Zébac et Tsalmunna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant: la main de Zébac et Tsalmunna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Succoth avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Penuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébac et à Tsalmunna: comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent: ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit: c'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Et il dit à Jéter, son premier-né: lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébac et Tsalmunna dirent: lève-toi toi-même, et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébac et Tsalmunna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Or ici, comme j'ai dit, on a la suite de ce qui s'est passé après la bataille de Gédéon contre le camp des soldats madianites, là où Gédéon, avec seulement 300 hommes, des flambeaux, des cruches, des trompettes, ont déjà mis un peu en déroute l'armée, mais a réussi à terrasser un grand nombre de ses soldats. Et là, on voit qu'il en restait tout de même 15 000 qui avaient pris la fuite. Et donc, dans ce chapitre, on voit les différents événements qui se sont produits pendant cette poursuite. Mais ce que je voudrais surtout mettre en lumière dans ce passage, ce sont les attitudes, des différents, on peut dire protagonistes, si vous voulez, mais des personnes ici qui ont montré des attitudes pour certaines très mauvaises, pour d'autres des attitudes honorables, mais de voir ici surtout comment, d'un côté, on voit l'orgueil de ceux qui recherchent leur propre gloire, et puis de l'autre côté, on voit la fidélité de ceux qui désirent honorer Dieu. Et donc cette victoire qui avait été pourtant donnée par Dieu n'a pas réjoui tout Israël. C'est-à-dire que lorsque Gédéon va poursuivre le reste de cette armée madianite, il va aller voir les villes de Succoth et Pénuel, demander de l'aide en termes de nourriture, et il va être très 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 mal accueilli, lui et ses hommes. Là où il désirait juste un peu de nourriture, ses hommes l'ont rejeté, se sont presque moqués de lui, mais on voit surtout que il n'était pas préoccupé par ce que Dieu venait d'accomplir pour son peuple. Ils étaient davantage préoccupés par leur intérêt personnel, par leur propre situation, que ce que Dieu venait d'accomplir avec Gédéon et ses 300 hommes. On y voit donc des personnes centrées sur elles-mêmes, mais aussi d'autres qui persévèrent, donc malgré l'opposition. Et dans ce que l'on va voir tout d'abord, au début du chapitre, ce sont quand même des critiques assez acerbes, n'est-ce pas? L'attitude d'Éphraïm, l'attitude de ceux qui ils sont venus prêter quand même main forte. Gédéon les avait appelés et ils ont répondu. Mais leur attitude, ça a été, comment ça se fait que tu nous as pas appelés dès le début pour qu'on puisse participer avec toi et puis bénéficier aussi de cette gloire, n'est-ce pas? Et donc, oui, Éphraïm a aidé dans ce sens où il a pu poursuivre les rois Horeb et Zeb et les mettre à mort. Mais là, l'attitude qu'ils ont est assez déconcertante, n'est-ce pas? Parce que leur question, c'est bien sûr que signifie cette manière d'agir envers nous, mais surtout, ils eurent avec lui une violente querelle. Ils l'ont réprimandé parce qu'il n'est pas venu les chercher avant. Et tout ceci semble montrer une certaine amertume peut-être de la part ici d'Éphraïm. Ils ont vraiment, ils sont vraiment pas contents avec Gédéon. Et la raison pour cela, c'est parce que encore une fois, ils ne les avaient pas appelés pour cette bataille contre cette grande armée de 135 000 hommes. Alors, je crois qu'il est important de s'attarder un petit peu sur cette tribu d'Éphraïm et de voir un petit peu de qui il s'agissait. Alors, oui, Éphraïm était la tribu la plus importante. À cette époque, il y avait aussi le tabernacle qui était situé à Silo, en territoire d'Éphraïm. Et les Éphraïmites descendaient eux-mêmes de Joseph, de son épouse égyptienne, et ils avaient, si vous voulez, pas mal de fierté quant à leur héritage d'être les descendants de Joseph. Et puis, ils usaient de cette influence et de cette puissance. Et certainement, oui, ça inspirait du respect de la part des autres tribus vis-à-vis d'Éphraïm. Mais ce que l'on voit dans les Écritures, c'est que souvent, Éphraïm s'est trompé sur le plan spirituel. On va voir plus tard hein, avec le juge Jephté, que cette même tribu d'Éphraïm va, là encore une fois, se plaindre, hein, d'avoir été exclue d'une bataille. Et dans le livre prophétique, hein, de Osée, Osée chapitre 7 et verset 8, le prophète il dit ceci. C'est Dieu qui le dit par la bouche du prophète, hein, à Éphraïm. Il a dit qu'il était une sorte de gâteau retourné. Alors, l'idée, c'était que bah, c'était comme un gâteau qui est trop cuit, hein, en dessous et cru au-dessus. C'est-à-dire que c'était pas fini, c'était pas complet. Il y avait toujours, hein, cette idée de, bah, Éphraïm qui allait dans un sens ou dans un autre. Ils étaient ardents, hein, envers le monde, mais froids envers Dieu. Éphraïm était un peuple qui était marqué par beaucoup de troubles, par l'orgueil, par l'égoïsme. Et d'ailleurs, dans le psaume 78 au verset 9, il y a là encore une fois un reproche, hein, qui est fait concernant l'orgueil d'Éphraïm, où il dit les fils d'Éphraïm armés et tirant de l'arc. Donc, ouais, c'est une belle image. Tournèrent le dos le jour du combat. Donc on a cette image d'Éphraïm à travers les Écritures d'une tribu qui, comment dire, qui sait ouvrir la bouche, mais quand il s'agit d'agir, de prendre l'initiative, on voit une tribu qui est absente. Et dans ce passage de Juges chapitre 8, on ressent peut-être de la jalousie. Hein, du fait que ce soit Gédéon, que ce soit la tribu de Manassé qui ait eu cette grande victoire. Et il semble même donc regretter d'avoir quelque part été privé, hein, du butin de guerre, parce que c'était ça aussi l'idée, c'est que voilà, tout ce que Gédéon et ses 300 hommes, hein, de tous les soldats qu'ils avaient mis en déroute, il restait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à récupérer. Et la part venait toujours au vainqueur, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça qu'ils sont énervés, c'est pour ça qu'ils ont eu une violente querelle avec Gédéon. Mais moi je me suis posé la question, c'est que ils auraient dû déjà savoir ce qui se passait, ce qui se tramait avec Gédéon et avec la bataille à venir. Ainsi, Éphraïm avait été véritablement préoccupé même par l'oppression des Madianites. Pourquoi est-ce qu'il n'avait rien fait jusqu'à présent? Ainsi, se voyait comme, voilà, on est cette puissante tribu, hein, on est fort, on a une bonne armée, etc. Mais où était-il auparavant? Ils auraient pu s'engager aussi à suivre volontairement Gédéon, mais quelque part, je me demande si c'est quelque chose qui aurait bien fonctionné. Hein, on sait que l'Éternel lui-même, il a fait un grand tri avec les 32 000 hommes, hein, qui ont suivi Gédéon, hein, qu'il n'en restait plus que 300 à la fin. Et probablement que si Éphraïm avait été là, je pense que beaucoup d'entre eux seraient peut-être repartis aussi. Qui sait? On ne sait pas. Mais au regard de ce que l'on voit dans les Écritures par rapport à leur manière de faire, par rapport à leur attitude, etc., je pense que ça n'aurait pas fonctionné de toute façon pour eux de se placer sous l'autorité de Gédéon. Mais visiblement ici, leur préoccupation, c'est le butin de guerre, c'est la richesse, c'est la gloire qu'ils estiment avoir manqué. Et d'ailleurs, la réponse, hein, que Gédéon leur donne, c'est quoi? C'est qu'ai-je fait en comparaison de vous? Hein, le grappillage d'Éphraïm, hein, ce qu'ils ont pu récupérer, hein, c'est rien par rapport au fait que eux, Éphraïm, le grappillage d'Éphraïm, vaut mieux que la vendange d'Abiézer. C'est-à-dire que ce que finalement Éphraïm a accompli en prenant ces deux rois et en les mettant à mort, ça faisait bien plus pour leur image que le fait, hein, d'avoir quelques trésors de guerre ici. Et donc, les Éphraïmites étaient des personnes typiquement, on va dire, peut-être orgueilleuses, hein, qui savaient parler pour attirer l'attention, mais lorsque les problèmes venaient, lorsque les grandes décisions devaient être prises, ils n'étaient plus là. Et dans les versets 2 et 3, on voit quand même Gédéon avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise, n'est-ce pas? Fin diplomate, on pourrait dire. Parce qu'au lieu de réagir avec colère à ces critiques, Gédéon répond avec de la grâce, de la sagesse, et il leur rappelle que Dieu les a quand même bénis, hein, et qu'ils possèdent déjà bien plus que toutes les autres tribus, hein, d'avoir pu participer et attraper, hein, ces deux chefs, Horeb et Zeeb. Donc Gédéon leur rappelle ensuite aussi que Dieu leur a quand même donné aussi à eux cette victoire. Et donc Gédéon apaise, hein, leur colère. Et ce que je vois, c'est que surtout Gédéon, il a cherché à faire ce qu'il y avait de mieux pour la nation, plutôt que d'essayer d'enfoncer Éphraïm et de les remettre à leur place. Il a agi avec beaucoup de sagesse, il a agi en bon leader. Il ne s'est pas laissé emporter ou guider par ses propres sentiments, mais voilà, il a cherché à faire ce qui était honorable devant Dieu et pour les autres. Ça nous fait penser, hein, à ce que l'on voit dans le livre des Proverbes, notamment au chapitre 15 et verset 1er, hein, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et je crois que là, on a un exemple parfait de cela, hein, de cette douceur, hein, des paroles de Gédéon qui ont calmé tout de suite Éphraïm. Et donc, au lieu, nous-mêmes, dans notre vie, au lieu de nous laisser distraire par les critiques, se laisser atteindre par les critiques, je crois qu'il est important pour nous de garder les yeux fixés sur ce qui est juste à faire, ce qui est droit à faire, sur la mission que Dieu nous a confiée, hein, la vie qu'il nous a appelés à mener, et que, au final, hein, lorsqu'il y a ce genre de tension et de dispute, de se rappeler aussi que ben, Dieu, un jour, hein, amènera toutes choses en jugement. Mais à partir du verset 4, on a un passage qui comporte plusieurs choses qui sont troublantes. Il y a ce qu'on pourrait qualifier des calculs politiques, n'est-ce pas? Il y a une simple requête de la part de Gédéon, c'est de recevoir à manger pour ses troupes qui étaient fatiguées. Ça n'engageait pas ni la ville de Succoth, ni celle de Penuel, à dire, nous sommes maintenant avec Gédéon et on va vous donner des hommes pour aller poursuivre le reste de l'armée madianite. Non, ils n'ont demandé que de la nourriture pour des hommes fatigués. Donc oui, là on voit Gédéon qui se préoccupe, hein, du bien-être de ses soldats, de ses hommes. Mais voilà, cette requête qui aurait dû être exaucée. Et exaucé sans hésitation, parce que, je veux dire, même s'il s'agissait d'une autre tribu, ça reste la nation d'Israël, n'est-ce pas? Et donc là, on a un refus, hein, que l'on peut qualifier de honteux, hein, de la part des chefs de Succoth et de Penuel, parce qu'au lieu de venir en aide au libérateur que l'Éternel a choisi pour délivrer son peuple, eh bien, les anciens des deux villes refusent de prendre, on va dire, une position favorable envers Gédéon. Hein, ils ont dit, si vous n'avez pas leur roi, ben, vous n'avez pas vraiment gagné la bataille. Et tant que vous n'avez pas gagné la bataille, nous, on ne veut pas risquer quoi que ce soit. Hein, si on vous aide et que vous êtes vaincus, eux, ils vont revenir et puis qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et donc ces deux villes qui appartenaient à la tribu de Gad, Gad dont le nom signifie une troupe, hein, une troupe qui écrase l'ennemi, ça c'est l'idée, hein, de ce nom. En fait, ben voilà, ces gens n'étaient pas à la hauteur de ce nom, pas à la hauteur de cet héritage, parce que même s'ils n'ont pas été appelés à combattre aux côtés de Gédéon, ils ont simplement reçu cette requête d'aide en termes on va dire, logistique alimentaire pour les soldats de Gédéon et ils ont refusé. Je crois qu'on peut quelque part penser, hein, à cette situation, à une situation comparable à ce que de nombreux pays ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les citoyens qui ont résisté à l'ennemi, d'autres qui ont collaboré, d'autres qui étaient pleutres, hein, qui étaient sans courage, qui n'ont cherché à rien faire du tout, qui avaient peur même, comme dans ce cas ici, de donner de la nourriture à ceux qui étaient actifs dans la libération du pays. Mais là, donc, en refusant d'aider Gédéon et son armée, ils se sont rendus coupables, dans un sens, d'avoir choisi l'ennemi. Coupables d'avoir rejeté le plan de Dieu pour la libération et d'avoir et de ne pas avoir aidé à cette libération en nourrissant ses soldats. Et donc, tout comme les Éphraïmites, ils ne cherchaient qu'à critiquer Gédéon et à protéger leur propre intérêt, leur petit royaume. Et ils n'ont pas compris qu'en donnant du pain à Gédéon, ils auraient eux-mêmes pu recevoir les bénédictions de la victoire qui a suivi. Et ils n'ont pas su voir cela. Je crois qu'il faut aussi comprendre que dans cette situation-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Était-ce la peur? Ou était-ce le fait que, eux, ils avaient déjà choisi leur camp? Ils avaient déjà ce désir de vouloir continuer dans ce compromis spirituel, d'être copain-copain avec les armées ennemies, mais surtout de participer dans leur religion païenne et d'avoir adopté ça eux-mêmes. Et je crois qu'on a certainement un peu de ces deux choses-là, mais la réaction de Gédéon et le châtiment qui a suivi, pour moi, ça me fait davantage penser que voilà deux villes qui n'ont pas choisi d'aider Gédéon parce qu'ils ne voulaient pas suivre, eh bien, l'Éternel, qui ne voulaient pas revenir à l'Éternel et se repentir et prendre cette décision ferme de s'opposer à Madian. Je crois qu'il faut aussi se rappeler d'une chose dans cette situation-là, c'est que au départ, il y a eu quand même 32 000 hommes qui avaient décidé de suivre Gédéon. Et ce nombre a été réduit à 300. Mais l'armée madianite, au départ, a été composée de 135 000 soldats qui, suite à la première bataille de Gédéon, a été réduite à 15 000 avec 300 hommes. Alors même s'il y avait eu cette idée de peur et de crainte de ce qui pourrait leur arriver, je crois qu'ils auraient pu se dire aussi, mais voilà, on peut maintenant réunir tous les autres, là, 32 000, 32 000 contre 15 000, on n'en fait qu'une bouchée, n'est-ce pas? Même si on parlait en termes humains, même si s'ils avaient réfléchi en enlevant Dieu de cette équation, ils auraient pu se dire, maintenant, 32 000 contre 15 000, ça devrait le faire. Mais même là, il y a un refus. Et pour moi, c'est un refus qui est lié, je pense, à ce désir de leur part de vouloir continuer dans leur voie. Et le châtiment qui en a suivi, celui que Gédéon a fait subir à ses 77 chefs de ville, pour moi, ça s'est associé à cette idée que voilà, c'était des villes qui ne voulaient pas revenir à l'Éternel, mais qui voulaient continuer dans leur voie. Et donc on a une réponse solennelle de la part de Gédéon, qui il leur dit, quand j'aurai mis Zébac et Salmunna à mort, lorsque l'Éternel les aura livrés dans mes mains, je reviendrai chez vous. Et ces propos, je broierai votre chair avec les épines du désert, avec des chardons, c'est quelque chose qui est très frappant, c'est certes violent, mais je crois aussi qu'il faut se rappeler que c'est les choses que à cette époque-là qui se pratiquaient, tout comme on avait vu par rapport aux mises à mort des rois ennemis, etc. Mais je crois que ça nous montre aussi que là où Israël, encore une fois, se trouvait spirituellement, était tellement à des années-lumière de ce que Dieu demandait d'eux, que là encore, le châtiment que Dieu a réservé pour cette ville qui finalement refusait de suivre l'Éternel, refusait de se repentir, eh bien, ça a été le juste jugement et châtiment pour eux. Il y a un prix, il y a un prix évidemment, hein, lorsque on fait un choix qui est contraire à la volonté de Dieu, lorsqu'on fait un choix qui est contraire à la sainteté de Dieu, hein, on sait que Dieu, hein, comme je l'ai dit précédemment, amènera toute chose en jugement et chacun d'entre nous, nous serons jugés, oui, selon nos œuvres, hein, selon ce qu'on aura fait ou pas fait, selon ce que l'on aura obéi à l'Éternel ou pas, selon ce qu'on aura poursuivi la sainteté dans notre vie ou l'iniquité. Et Dieu le jugera. Et la sentence sera proclamée. Mais ici, donc, on voit encore une fois que dans le contexte d'Israël, dans ce contexte de peuple choisi par Dieu pour être une lumière au départ pour les nations, d'être aussi son serviteur, de voir à quel point ils se sont détournés de l'Éternel et de voir leur entêtement à continuer là-dedans. On voit dans ce livre des Juges, hein, ces cycles à chaque fois où ils reviennent dans ce péché, mais même lorsqu'il y a cette opportunité de regarder, l'Éternel nous a donné la victoire et ils n'ont pas saisi cette occasion, eh bien, de se joindre à cette victoire-là. Et donc, à l'opposé, hein, de ces critiques et à l'opposé, hein, de ce genre de comportement que l'on voit avec ces villes de Sukkot et de Penuel et de leurs chefs, moi, je veux surtout souligner, eh bien, cette persévérance victorieuse de Gédéon et de ses hommes. Ils étaient fatigués. Mais verset 4, ils ont continué à poursuivre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrêtés sur, voilà, hé, on a fait une belle grande victoire, là c'est bon, hein, on peut se reposer, etc. Non, il fallait aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une vérité spirituelle aussi pour nous, hein, même aujourd'hui, c'est que faut pas se limiter à, tiens, j'ai réussi à éradiquer. On va dire 60% du péché dans ma vie, et de dire que le reste, ça va. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut travailler, hein, dans ce sens-là. Et là, Gédéon donne cet exemple-là, que malgré la fatigue, lui et ses hommes ont continué de poursuivre Madian, et dans les versets 10 à 21, donc on les voit eh bien faire des captifs, hein, de Zébac et de Tsalmunna, et de finalement, hein, leur infliger la sentence de la mort. Mais on a vraiment cette admirable résolution, hein, de la part de Gédéon, hein, au lieu de se décourager et de se laisser abattre par les critiques, par l'indifférence de ces deux villes, eh bien, il va aller jusqu'au bout de ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Et là, au verset 4, c'est vrai que on a des hommes qui sont fatigués, qui sont affaiblis, mais qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. D'où vient donc l'idée, hein, qu'il soit possible de se reposer sur le Seigneur? D'où vient l'idée qu'il est acceptable aussi de rester passif pendant que d'autres font tout le travail? Il y a deux notions ici, hein, dans ce passage qu'il faut soulever. Celle que, eh bien, on peut, malgré la fatigue, malgré la faiblesse, avec la force du Seigneur, aller jusqu'au bout. Mais la question doit se poser aussi, comment ça se fait que certains pensent qu'il soit acceptable de rester passif pendant que d'autres sont à l'œuvre? C'est-à-dire que pendant qu'il y a des chrétiens qui sont actifs dans différents domaines, que ce soit dans l'évangélisation, dans l'enseignement ou dans l'aide apportée aux gens, etc. Comment est-ce que on peut rester passif? Parce que là, c'est un peu cette idée-là aussi, hein, que l'on voit avec ces deux villes de Sukkot et Pénuel, c'est ils restent passifs, ils ne font rien. D'où viennent les idées, hein, selon lesquelles justement on peut voilà, venir à l'église et participer, hein, aux réunions, etc., mais sans jamais apporter une contribution spirituelle, hein, de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur à travers l'église. Et je pense qu'il s'agit, vraiment, hein, de ce que on a un adversaire qui cherche tous les moyens pour nous détourner, nous dérouter de la volonté de Dieu, hein, pour nos vies, et qui nous attire dans un sens ou dans un autre, mais toujours loin de la volonté de Dieu. Alors il peut nous arriver, lorsque nous sommes actifs, hein, dans l'œuvre du Seigneur, dans le témoignage, etc., dans l'entraide, dans l'encouragement, l'exhortation, etc., il peut arriver d'être fatigué, il peut arriver d'être lassé. Et je crois que ce qui est important pour nous de retenir, c'est que lorsque ça arrive, eh bien, je crois qu'il faut suivre cet exemple de Gédéon. C'est de persévérer, de continuer, de s'appuyer sur la force que Dieu donne. Et donc on voit par la suite, donc Dieu a accordé encore cette victoire sur Zébac et Tsalmuna. Hein, Gédéon et ses hommes ont vaincu leurs ennemis, ils ont capturé les rois madianites, ils ont persévéré face à l'opposition, face aux critiques, et ils remportent cette grande victoire. Et déterminés donc d'aller jusqu'au bout, ils ont vu Dieu agir avec puissance. Et je crois qu'on revient encore une fois à ce qu'on a déjà souligné, c'est que la puissance de Dieu, elle se révèle dans notre faiblesse. C'est-à-dire que quand nous, hein, nous reconnaissons que nous sommes faibles, que on n'a quasiment rien à apporter à Dieu, mais de voir que quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu, lorsque nous nous mettons à sa disposition, Dieu, il est capable de prendre ces faiblesses que nous nous voyons et de donner sa puissance pour que nous qui sommes faibles puissions accomplir des choses extraordinaires. Ici, cette détermination que l'on voit chez Gédéon et ses hommes, je crois qu'il faut faire attention à ne pas le confondre avec de l'entêtement ou de l'obstination. Hein, ici, ces hommes, hein, Gédéon, ils ont agi par la foi. Hein, je rappelle, la foi, c'est le croire. C'est de faire confiance et c'est obéir. Ces trois notions sont liées à la foi. Et donc, en agissant par la foi, eh bien, ils ont été déterminés à aller jusqu'au bout. Ils ont persévéré, ils ont continué à suivre le plan de Dieu malgré tout ce qui est venu faire entrave. Vous imaginez un peu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, que lorsque vous venez d'accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire, et l'entourage autour de vous, au lieu de waouh, super, de se réjouir avec vous, il vous critique. Ou lorsque, parce que vous avez accompli ces choses-là et que vous êtes encore à fond, hein, dans ce que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur, et que vous demandez de l'aide à quelqu'un et que on vous refuse cette aide. Ici, Gédéon, c'est ce qu'il a connu. Mais malgré donc ces critiques, malgré le refus, hein, d'être aidés, ils ont continué et finalement on voit Dieu leur apporter donc la récompense de la victoire et la récompense d'avoir apporté la liberté, hein, au peuple d'Israël, à la tribu de Manassé notamment. Alors oui, lorsque on regarde dans à la fin de ce passage, hein, des versets 13 à 21, on voit Gédéon qui revient avec les rois madianites. Il arrive à Succoth, et là, il va donc prendre ses 70 et quelques anciens et les faire mourir en les traînant à travers les ronces et les épines. Et arrivé à Penuel, il va détruire la tour, hein, qui, quelque part, symbolisait peut-être aussi la force et la puissance de cette ville. Mais Gédéon, hein, a fini par sa persévérance, par son obéissance à Dieu, eh bien, apporter la victoire au peuple. Et à la fin, finalement, c'est Gédéon qui a eu le dernier mot. Hein, c'est lui qui a été fidèle jusqu'au bout. Et tous ceux qui ont été ses détracteurs, tous ceux qui n'ont pas aidé, finalement, ces villes de Succoth et Pénuel, eh bien, ils ont perdu énormément. Ils ont perdu, hein, la possibilité de recevoir les nombreuses bénédictions de Dieu, hein, de pouvoir connaître cette même puissance et ces mêmes victoires qu'il a accordées à Gédéon. Donc, la question, hein, ici, à la fin, c'est surtout par rapport à nous-mêmes. Hein, si on devait prendre le temps de regarder à notre propre vie et de la résumer, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on serait comme plutôt Éphraïm? C'est-à-dire que on a la parole facile pour dire ouais, faut faire ça et ça et ça et ça, mais quand il s'agit de le faire, ils ne sont pas là? Ou ils agissent par rapport au fait que ben, ça va me rapporter quelque chose? Ou est-ce que pour certains, eh bien, c'est plutôt comme Sukkot et comme Penuel, hein, où on ne veut pas aider. On ne cherche pas à participer à l'œuvre de Dieu. Tout ce que l'on voit ici avec Gédéon, surtout, c'est qu'encore une fois, à la base, c'est quelqu'un qui, lui, ne se voyait pas apte à pouvoir accomplir ce que l'Éternel lui demandait d'accomplir, mais qui, par la foi et par l'obéissance, par la persévérance, a su montrer un exemple de ce que Dieu est capable d'accomplir dans la vie d'une telle personne. Et son témoignage, il a été percutant pour les personnes à son époque, tout comme il est encore percutant pour nous aujourd'hui. Dieu, encore aujourd'hui, cherche de telles personnes, des personnes qui sauront prendre position, qui ne vont pas reculer, qui vont persévérer, qui vont chercher à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et la question pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous sommes disposés à laisser Dieu agir dans notre vie? Hein, est-ce que nous sommes prêts à suivre son plan pour notre vie? Alors, j'aurais pu prendre un peu plus de temps ce soir pour regarder davantage hein, au verset suivant, bon, les versets 18 à 21 par rapport à pourquoi est-ce que Gédéon a demandé à son fils hein, de tuer ces deux rois. Mais je crois que pour faire simple, mon opinion là-dessus, c'était pour humilier davantage ces deux rois-là par rapport à ce qu'ils avaient fait, par rapport à tout l'oppression et par rapport à toutes les personnes d'Israël et de Manassé qui ont péri hein, sous l'oppression de ces deux rois, et d'avoir un jeune garçon leur donner la mort, pour beaucoup de rois, c'est quelque chose d'indigne. Et c'est pour ça qu'ils font cette même requête hein, au verset 21, Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et donc finalement, bon, Gédéon va exécuter hein, ses deux ennemis et récupérer hein, les ornements hein, qui étaient autour des coups de leur chameau. Mais la prochaine fois, on va regarder surtout hein, à la fin de ce chapitre 8 et à la fin de la vie hein, de Gédéon et de voir encore plusieurs leçons hein, pour nous à travers ces quelques versets.